Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous recevons à présent Mireille. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Catherine. Alors moi je vous appelle pour m'éclairer, m'aider. Et voilà, je suis formatée pour me m'auto-saboter.
D'accord.
J'ai ma mère et mon père qui bon, je vais vous donner des exemples pour ma mère et puis je donnerai un exemple pour mon père. Ma mère, par exemple, m'a fait retirer de l'école de bonne heure.
Mmh. Vous aviez quel âge, Mireille ?
77 ans.
Non, quand elle vous a retiré de l'école. Donc effectivement, c'était de bonne heure. 77 ans pour être retiré de l'école, franchement, c'était vraiment trop tôt.
Alors, on peut attendre un peu quand même.
Donc, vous aviez quel âge, dites-moi?
J'avais 14 ans.
14 ans,
déjà,
d'accord.
Déjà, à l'école, mes parents m'avaient décrété que moi, les études, c'était pas fait pour moi. C'était
d'accord.
Fait pour les autres, mais pas pour moi.
Mm-hmm.
Donc, ils ont fait croire ça à tout le monde. Donc, de nombreuses années, ma sœur qui me dit « Oui, mais toi, de toute façon, tu ne voulais pas rester à l'école. » Ah, j'ai dit « Ah bon ? Je ne voulais pas rester à l'école, mais je n'ai fait qu'apprendre de toute ma vie. »
Bien sûr.
Et demandeuse d'apprendre.
Parce que vous êtes la seule enfant de la fratrie qu'on a retirée de l'école à 14 ans ?
Oui,
d'accord.
Oui, les autres ont eu le droit à plein de choses.
Et bon, vous étiez d'ailleurs où dans la fratrie
je suis la deuxième.
La deuxième. Avant vous, il y a une fille ou un garçon ?
Non, un garçon. Alors
un garçon.
Je suis l'aînée.
D'accord, l'aînée des filles. D'accord.
Ah oui, et puis en ce temps-là, c'était pas... dans ma famille, c'était pas de la rigolade.
Mmh.
J'ai eu en charge mes frères et sœurs en très bas âge.
Mmh.
Bon, j'ai eu une vie difficile avec mes parents. Alors, bon, on m'a retirée de l'école. Je devais aider mes parents et aider à payer les études de mes frères et sœurs, ce que j'ai fait. Mais alors ma mère, elle m'a mis en...
Donc vous avez travaillé tout de suite à 14 ans?
Ah bah oui.
Mmh.
Oui. Même avant.
Même avant, d'accord.
Même avant.
J'adore vous entendre rire, Mireille. Merci, merci de rire.
Comment?
J'adore vous entendre rire, c'est merveilleux.
Oui, non, là j'ai dépassé un peu tout ça. Bien que j'en ai grosso la patate quand même.
Mais je comprends.
Voilà. Bon, alors, mon sujet de ce soir me fait penser à la dame qui était précédemment le zèbre. Je suis zèbre aussi, pareil.
Ah d'accord, c'est la réunion des zèbres ce soir.
je l'ai appris dernièrement, on m'a dit, vous êtes zèbre, bon, ben c'est bien.
D'accord.
Alors, bref, oui, je vais vous donner des exemples. Bref, par exemple, alors, je travaillais chez mes parents.
Oui.
Ma mère, ils vendaient sur les marchés, les foires, les fêtes, les pardons, enfin, sous Bretonne, partout.
Mm-hmm.
Ils étaient des forains, mais pas de souche.
Oui.
Ils étaient de souche agriculteurs. Hein.
Mm-hmm.
Et ma mère, elle avait la bosse du commerce, elle a entraîné mon père qui était couvreur. Et puis, ils ont fait toute la Bretagne avec les enfants. Bon, oh là là. Bon, donc j'ai été retirée de l'école et ma mère donc vendait sur les marchés des gâteaux, tout ça.
Mmh.
Elle a fait venir un cuisinier.
Oui.
Pour m'apprendre à fabriquer des gâteaux.
D'accord.
Mais par centaines.
Mmh.
Dans un four ménager.
D'accord.
Bien sûr, ça n'a pas fonctionné, bien sûr.
Mmh.
Elle m'a mis en échec.
Mmh.
Je vous donne des exemples bien
concrets.
Alors, l'année de la communion de ma sœur, elle m'inscrit un cours de couture. Mmh. Tu vas apprendre la couture et tu vas faire
l'aube de ta sœur.
Ma robe de l'aube de ta sœur. Tu vas faire ta robe, tu vas faire ma robe, tu vas faire mon manteau, tu vas tu vas habiller la famille au bout de 3 mois.
D'accord.
Bien sûr, j'ai échoué quoi. C'était pas possible.
Ça n'était pas possible. 3 mois
d'apprentissage. Mmh. Et je devais habiller tout le monde pour la communion de ma sœur. Mmh. Moi, j'ai pas réussi, bien sûr. Mmh. C'était évident. Hein. Bon, ça, je vous donne des exemples, mais bon, il y en avait à l'appel, hein, où j'étais mise en échec.
Oui.
On me mettait en échec.
Oui, c'est-à-dire que d'un côté, on vous dit que vous n'êtes pas capable, donc, alors que vous êtes gourmande d'apprentissage, et de l'autre côté, on vous met des challenges qui ne sont pas possibles, puisque vous ne pouvez pas apprendre ce que d'autres font en plusieurs années. En 3 mois, parce que tout d'un coup, l'aiguille à la main, il vous faudrait savoir faire des vêtements, ou parce que vous avez un pâtissier qui vous montre en un tour de main des gâteaux, être en compétence de faire des gâteaux de façon industrielle dans un four ménager. Donc en fait, on vous propose, on vous dit incapable d'un côté, et on vous demande de soulever la lune, d'une certaine manière.
Oui, d'être très performante de l'autre côté.
Absolument, d'accord.
Oui, oui.
Donc on fait la démonstration de votre incapacité, finalement.
Oui, mais moi, j'ai quand même intégré ça. Mm-hmm. Vous voyez, j'ai intégré, par exemple, dans ma vie professionnelle, je me suis mise en échec.
Mm-hmm. Alors justement, quelle a été votre vie professionnelle? Est-ce qu'elle a toujours été à proximité de vos parents, ou est-ce que vous avez un jour pris votre envol?
Non. Alors, ma vie professionnelle, je suis sortie de l'école à 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études, que j'ai jamais vu la couleur, et qui m'a servi à rien, qui m'a servi simplement intellectuellement, quoi. Hein. Mm-hmm. Et j'étais très bonne en sport. J'ai été la première du canton pour le certificat d'études. Ça me fait drôle de dire ça parce que ça paraît désuète actuellement, surtout aux Jeux Olympiques là. Paraît désuète.
Bah oui. Mais c'est d'abord, ce qui est chouette, c'est que désuet ou non, de fait, vous l'avez été. Donc vous n'avez pas été qu'en échec quand même. Vous voyez bien que vous avez une compétence. Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes zèbre, donc vous aviez tout le potentiel pour la compétence, si ce n'est la difficulté de vous reconnaître et d'être reconnue.
Oui, et puis, le sport me plaisait beaucoup. Moi, je n'étais pas mauvaise. Et puis, ma mère, elle m'a... Pour manger de la vache enragée, elle m'avait mise employée dans un château.
D'accord.
Et puis après, elle a trouvé sans doute, elle avait besoin de main d'œuvre. Donc au bout d'un moment, j'étais docile, hein, très docile. Mm-hmm. Je ne suis jamais rebellée chez mes parents. Et donc, j'ai jamais vu la couleur de l'argent.
Donc pour la couleur de l'argent, de la dot. Parce que vous avez été mariée ou de quoi là, de l'argent?
Je parle encore de mon enfance.
Oui, d'accord.
Ma mère, elle m'a mis
au service
dans un château.
Voilà, et c'est elle qui se faisait payer.
Et c'est elle qui se faisait payer.
D'accord.
Bon, on m'a récupérée à la maison. Mm-hmm. Et puis, j'étais la bonne à tout faire. Hein. Voilà. Corvéable à merci. Puis dans ce château, je me suis aperçue que j'avais mes dimanches, que je n'avais jamais eu de ma vie. Mmh. Bref, ma mère me met comme nourrice chez des particuliers. Mmh. Et là, j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai dit je voudrais être professeur de gymnastique, de sport.
D'accord. Donc là, vous avez Là, vous avez quel âge ?
Dans un club.
Oui.
Tout en travaillant, en étant nourrice. Et puis, de là, après, moi, j'ai grimpé. J'ai été prof de gym. J'étudiais la nuit, je travaillais le jour. J'étais prof de gym. Je suis même partie 2 ans en Afrique.
Donc là, vous êtes dans la voie que vous choisissez, pas qu'on vous désigne.
Voilà.
D'accord, pour la première fois.
Oui, mm-hmm. Oui.
Donc là, vous avez quel âge quand vous allez embrasser cette carrière ?
J'avais 20 ans.
20 ans, d'accord. Et donc, vous allez partir et vous allez vous envoler jusque loin, puisque vous allez aller jusqu'en Afrique.
Oui. Mais c'était un projet d'enfance. Là.
D'accord, très bien.
C'était... c'était un rêve d'enfant.
Mm-hmm.
Je l'ai mis en application quand j'ai eu une difficulté avec un directeur.
Mm.
Et j'ai préféré partir et puis... là, j'ai dit, c'est l'occasion et je suis partie. Alors, j'ai été aussi directrice d'internat. Mm-hmm. En fait, j'ai une vie de réparation.
Mm-hmm.
J'étais interne enfant et j'ai été maltraitée par les religieuses.
Mm-hmm.
Mais de toute façon, mes parents avaient dit, vous la battez, il faudra lui sortir le vice de la peau.
D'accord.
Après, tout est ouvert. Hein.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous en comprenez à ce moment-là ? Le vice de la peau, qu'est-ce que vous avez ? Le vice dans la peau, quel est-il ? Comment vous le comprenez, cette
fois ? Avec nos parents, on était des enfants dont il fallait nous battre, il fallait nous apprendre la vie en nous battant.
Et alors justement, comment enfant vous comprenez ce que ça veut dire le vice ? Quel vice y a-t-il dans le corps de l'enfant pour qu'on le batte, pour lui enlever le vice ?
On a quelque chose de monstrueux en nous qu'il faut tirer.
Et qu'est-ce que vous avez imaginé, enfant, que ça pouvait vouloir dire ?
Moi, je ne crois pas que j'ai imaginé quelque chose. Parce que je voyais bien... mes parents, les religieuses, mes professeurs, ils n'étaient pas clairs, ils n'étaient pas bien.
Mm.
Je crois que je l'ai toujours su. Par exemple, moi, je restais sous les coups de mes parents parce que j'ai senti très jeune que cela les calmait.
Mmh.
Ils perdaient une violence qu'ils avaient en eux. Ils étaient soulagés après.
Oui, déchargés leur violence.
Ils déchargeaient.
Mmh. J'ai le sentiment que quand des adultes comme ça disent d'un enfant, et surtout à l'époque, elle a le vice dans la peau, finalement, c'est comme s'ils accusaient l'émergence du désir. Et quand je dis du désir, je parle du désir en général. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas laissé émerger, naître, poindre votre désir personnel. Vous avez nourri des envies, mais encore que vous avez pu être professeur de sport, ou de gymnastique, mais c'est comme si le désir, c'est ce qui éloigne des parents. C'est ce qui fait qu'on prend son envol, c'est ce qui fait qu'on se réalise, qu'on se révèle. Et en considérant le désir comme un vice, qu'il soit d'ailleurs un désir sexuel ou simplement un désir de vie, c'est une façon de garder l'enfant coincé dans son devoir de satisfaire les parents ou de satisfaire et d'être un enfant utile en quelque sorte.
Et, oui, j'étais un objet pour eux.
C'est ça.
Un objet utile.
C'est ça. Et évidemment qu'en employant le terme « vice », ça évoque beaucoup plus ce qui se passe pour les adultes qui nomment les choses ainsi. Hein, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire que c'est en nommant les choses ainsi, comme vous dites, ils ne sont pas clairs, ils parlent de leur propre vice, de ce qui leur fait peur, de ce qu'ils ressentent et qui pourrait s'exprimer. qui pourraient être de nature, je ne sais pas, lascive ou sexuelle, je ne sais pas ce qu'ils imaginent, en tout cas pour les religieux. Et donc, du coup, on essaie de réprimer, leur... ce qui pourrait naître chez l'enfant parce qu'on n'est pas arrivé à le réprimer chez soi, en quelque sorte. Et oui, la violence, c'est le moyen de tenir en laisse tout ça.
Oui, oui. Même le plaisir. Parce que mon père, il m'a... je ne sais pas si on dit ça pour les filles, mais il m'a castrée.
Oui, mais on peut aussi, on peut le dire, effectivement. En tout cas, on entend très bien ce que cela veut dire. Alors, Mireille, restez à l'antenne. Nous allons faire une pause pub, ce qui nous permettra d'essayer d'améliorer le son que nous avons, puisqu'il n'est pas de très bonne qualité. Alors, à tout de suite. Hein, restez là.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Mireille ?
Oui.
Voilà, je crois que nous avons une meilleure communication maintenant. Ça vous,
oui.
Vous m'entendez bien ? D'accord. Alors, vous veniez de dire quelque chose qui était important. Vous disiez de la part de votre papa qu'il vous avait d'une certaine manière castré. Et juste avant, vous disiez, on se posait la question de ce que voulait dire « elle a le vice » ou « les enfants ont le vice et il faut le maîtriser par le biais de la violence et en les battant ». Donc là, on parlait du vice. Là, maintenant, vous dites votre papa vous a castré. Donc, on voit bien que ce vice, il est bien l'expression du désir et du désir de votre singularité. Et de votre singularité, à votre singularité participe bien sûr votre génitalité, votre féminité. Et comme s'il fallait abîmer cette féminité qui pouvait être désirante de vie, d'expérience. D'ailleurs, vous disiez au tout début de notre échange qu'on a déclaré que vous n'aviez pas de compétences et de désir aux études, alors que c'était tout à fait le contraire. Donc, d'une certaine manière, on a eu de cesse que de stopper l'élan de tout désir que vous pouviez exprimer. Et du coup, si je reviens maintenant à ce que vous disiez au tout début, que vous vous mettez constamment, que vous avez été programmé pour être en échec, j'aurais tendance à dire que on vous a peut-être programmé pour être en échec, mais vous ne l'avez pas toujours été. Simplement, quand on interdit le désir, quand on le nomme coupable, quand on le nomme vice, inévitablement, l'enfant a tendance à y croire et a du mal à défendre son bout de gras, à défendre son élan, sans risquer de trahir même ceux qui ne lui font pas de bien. Et c'est ça toute la difficulté. Donc, assez régulièrement, parce qu'on échoue, parce que tout le monde échoue. Hein. Ce n'est pas parce que... vous savez, l'échec n'est pas le propre de quelqu'un qui a été maltraité. L'échec fait partie du cheminement de chacun d'entre nous. Simplement, pour certains, échouer devient une définition d'eux-mêmes, quand pour d'autres, échouer est une occasion d'observation pour trouver la solution, pour contourner le problème. Donc, c'est intéressant, parce que c'est à ce titre que nous ne sommes pas tous égaux, selon l'éducation qui est la nôtre. Nous ne vivons pas l'échec comme un point d'arrêt, parce que d'autres, justement, vont le voir comme un point de rebondissement, d'une certaine manière. Vous êtes toujours là, Myriam ?
Oui.
Et donc, du coup, ce que je voudrais savoir, c'est si vous observez votre vie, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout cet acharnement à faire taire votre désir, est-ce qu'il n'y a pas un peu des moments où vous vous êtes vue victorieuse, de petites victoires certes, mais de victoires suffisantes pour déjouer ce que d'autres voulaient écrire pour vous?
Oui, j'ai eu beaucoup de victoires, mais je les cassais après. Par exemple, un jour, j'ai dit, j'en ai marre de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aime bien cette couleur. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien peindre. Et je me suis dit, mais attends, quand t'as voulu apprendre quelque chose, eh ben, tu t'es donné les moyens pour apprendre. Il y a des écoles, il y a des cours, il y a tout ça. Et puis, 8 jours après, j'étais inscrite à un cours de peinture.
C'est formidable.
J'ai fait beaucoup de concours. Mmh. Et puis, j'en ai gagné un.
Mmh, c'est sûr.
Mais après, j'ai régressé. Je n'évoluais plus, je régressais. Tous mes tableaux, était vraiment nul, je le voyais bien, je n'arrivais plus à trouver, j'avais gagné une fois. Après, je n'ai plus rien fait de bien.
Oui, c'est ça qui est assez... Alors, déjà, il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'un enfant que l'on prive de scolarité ne veut pas dire un enfant qui n'apprendra pas des choses. Au contraire, s'il est animé de désir d'apprendre, il apprendra. Alors bien sûr, on ne lui a pas simplifié la vie parce qu'on ne lui a pas ouvert le champ des possibles au moment où c'était le plus opportun, au moment où il avait le temps, au moment où il y avait pas d'urgence. Souvent, quand on veut réparer ou récupérer le temps perdu, on met beaucoup d'acharnement et beaucoup de créativité pour y parvenir. Donc, bien sûr, on a perdu du temps au départ, mais on y met beaucoup plus de volonté personnelle quand il faut réparer les injures du passé. Ceci étant,
Moi, ça m'a semblé... Ma vie m'a pas... Moi, j'ai pas fait de projet de vie.
Oui, j'entends bien.
Parce que j'ai eu plusieurs métiers, hein, j'ai pas eu que ça. Hein. Mmh. On m'a dit que j'étais instable parce que dans mon époque, quand on commençait dans un endroit, on le finissait. Mmh. Bon, moi, non, j'ai bourlingué, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai fait plusieurs enseignements, j'ai appris plusieurs choses, j'avais une difficulté à passer les examens. Je faisais tout pour ma profession, comment apprendre pour ma profession, parce que j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai pas eu que deux. Hein. Et j'apprenais, parce que dans cette profession, il fallait que j'avance. Puis bon, j'étais avide de compétences pour réussir dans cette... je disais même pas le mot réussite. Hein. Mm. Pour apporter aux autres, voilà. Mais je n'allais pas aux examens.
Vous voyez ce que vous dites, Mireille, c'est intéressant, parce que vous disiez, je ne parlais pas de réussite, ce n'est pas pour... C'est-à-dire la notion de réussite, la notion d'examen, la notion de... finalement, vous avez été un peu surprise de gagner le concours en peinture. Et tellement surprise que vous vous êtes interdite de pouvoir continuer à progresser et à avancer. D'ailleurs, vous avez régressé. Comme si, d'une certaine manière, vous n'avez eu de cesse d'apprendre, vous avez eu la compétence d'apprendre, vous vous êtes donné beaucoup de moyens pour aboutir les métiers que vous avez essayés, dans lesquels vous vous êtes plus ou moins épanoui, ou dans lesquels vous avez cherché à découvrir tout votre potentiel ou toute l'étendue de votre potentiel.
Oui.
Mais d'une certaine manière, une sorte de fidélité à l'injonction parentale qui, encore une fois, ils n'ont pas... Vous savez, ça me fait penser au conte de la Belle au bois dormant où il y a la fée Carabosse qui pose un mot et qui dit d'accord, elle sera belle, elle sera machin, etc. Mais elle se piquera à la quenouille et elle mourra. Et d'une certaine manière, c'est pas que la fée Carabosse a des super pouvoirs, c'est que l'enfant qui entend ça, il a tendance à y croire lui-même puisqu'on le définit ainsi et qu'il est fidèle à ce que l'on définit de lui. Et parce que même quand les parents ne sont pas tendres et aimants, ce sont les parents. Et l'enfant en a besoin de garder le lien, même chaotique, même maltraitant. Et souvent, du coup, il s'impose cette phrase négative de « tu n'es pas faite pour ça, tu n'arriveras pas à faire ça ». Et on peut conditionner comme cela un enfant en lui disant « tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas ». Il faut beaucoup d'énergie pour contredire la parole de l'adulte et qui plus est du parent. Donc vous avez fait beaucoup de choses et on voit, y compris votre compétence d'élaboration dans les chances que nous avons toutes les deux. Donc on voit bien que vous avez été en compétence de réflexion et de vous nourrir tant et plus. Mais à chaque fois qu'il a été question de quelque chose qui officialise votre compétence, à savoir un diplôme, à savoir un concours, eh bien tout de suite vous êtes allé vous cacher dans votre coquille et vous vous êtes auto-censuré en effet pour rester ce que vos parents comme vous avez pu l'imaginer, attendaient de vous. Évidemment que vos parents n'attendaient pas ça de vous, mais vos parents, tout à leur maladresse, à leur éducation, à leurs enjeux, eh bien, n'ont pas vu qu'ils avaient sacrifié un enfant. Voilà Mireille, il va falloir maintenant que tranquillement nous nous quittions. Est-ce que ce que je vous ai dit a eu du sens, vous a parlé?
Oui, mais ça ne résout pas mon problème actuel qui est le même. Hein.
Alors justement, ça ne le résout pas, mais nous pourrons... d'abord, on n'avait pas non plus, on ne s'est pas mis le challenge de le résoudre comme ça à la libre antenne en 30 secondes. Mais si vous voulez, nous pourrons aussi nous reparler pour continuer. Nous avons planté le décor pour comprendre ce qui s'est joué. Et si vous le souhaitez, nous poursuivrons.
Actuellement, je joue la même chose sur ma vie.
Eh bien, on pourra essayer d'aller plus loin si vous le voulez bien. Je vous laisse à ce moment-là réappeler au 3921 la libre antenne. D'accord ?
Merci.
Je vous en prie, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.
Merci, bonne nuit.
Merci, vous aussi.